Merci d'être avec nous ce matin. Donc, j'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'auraient pas été là, Jean-Luc est pasteur donc à Lille-sur-la-Sorgue. C'est un plaisir de l'avoir en visite chez nous ce matin. Comme vous savez, Lille-sur-la-Sorgue, Carpentras, Cavaillon, on est trois églises qui faisons partie de l'association baptiste dans la même région. Et donc, c'est une bonne chose de pouvoir vivre ces relations fraternelles et puis même au-delà de ça. Merci beaucoup.
Merci. Alors bonjour à tout le monde, à ceux que je n'ai pas salués. On se réjouit, en tout cas je me réjouis d'être là. Mon épouse n'accompagne pas parce que les deux services aussi sur Carpentras. Et ce soir nous avons le culte à Lille-sur-la-Sorgue, donc à 18h. Et nous aurons un prédicateur de passage, Marc-Étienne. Voilà, donc c'est l'entraide aussi. On s'encourage mutuellement et ça fait du bien aussi parfois d'entendre une autre voix. Et voilà, on se soutient mutuellement et on est heureux de cela. Je devais venir au mois de juillet, mais la France était en finale de la Coupe du Monde. Et ça a bouleversé le programme parce que nous devions avoir le culte, nous, le soir. Mais vous imaginez qu'à 18h, quand la France est en train de jouer, et qu'en plus elle a gagné, c'était infernal ensuite. Donc on a dû modifier le programme et j'ai pas pu venir. On a inversé le culte, on a mis le matin. Voilà. Salutation aussi de l'église de Carpentras, parce que nous sommes aussi toujours très proches les uns les autres. On a été avec eux pour la journée de rentrée dimanche passé. Donc l'église de Carpentras vous salue bien. Et puis donc l'église de Lille-sur-la-Sorgue aussi. Et si un jour vous avez envie de faire un petit coucou, découvrir, ben venez. Et puis vous verrez aussi. Donc voilà, c'est l'occasion. On a les petits-déj qui permettent aussi cela. Donc si vous voulez découvrir Lille-sur-la-Sorgue, c'est aussi l'occasion de voir, de prier. Quand on voit, des fois, on peut mieux prier de manière plus précise. Voilà. J'avais à cœur, et je dois dire que je travaille aussi dans cette même optique, à Lille-sur-la-Sorgue, de nous replacer devant notre maître Jésus et de pouvoir prendre du temps pour réfléchir à nouveau sur ce que Jésus nous dit. Alors, j'aimerais ce matin ouvrir la Bible avec vous dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, les 15 premiers versets. Alors, quand vous allez ouvrir, peut-être le texte vous dit quelque chose, mais quand vous allez ouvrir, vous dites « Ah oui, on connaît ». Et je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de textes qu'on croit connaître, et puis en fait, il y a des choses qui nous passent un petit peu à côté, et finalement, on ne lit plus les textes en se laissant interpeller par cette parole, parce qu'on croit les connaître. Alors, nous voulons demander à Dieu de nous aider à nous laisser interpeller par sa parole. Je commence la lecture, je lirai dans la Bible version Semeur. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appela aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Prions. Merci Père pour ta parole, cette parole qui a traversé les siècles, qui nous est parvenue intacte et qui nous permet à nouveau aujourd'hui de plonger nos regards dans ce que tu dis. Nous avons besoin de nous mettre à l'écoute, nous l'avons dit tout à l'heure, ça a été répété, nous avons besoin d'être à ton écoute pour comprendre ce que tu veux nous dire. Alors éclaire-nous, conduis-nous et aide-nous à nous concentrer sur ta parole. Éloigne toute pensée qui n'a rien à faire ici, pour que nous puissions être pleinement à ton écoute et saisir ce que tu veux nous dire pour ta gloire. Nous t'en prions en le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je l'ai dit, cette histoire, elle est familière. Qui ne l'a jamais entendue? Voilà. C'est révélateur, on l'a tous au moins une fois entendue, cette histoire. C'est une histoire donc qui est riche d'enseignements pour nous. Est-ce que vous avez remarqué que cette histoire, elle nous est rapportée par les quatre auteurs de l'Évangile? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et en dehors de la crucifixion et de la résurrection du Christ, c'est le seul miracle qui nous est rapporté par les quatre auteurs de l'Évangile. On sait que Jean a écrit son Évangile beaucoup plus tard que les trois autres. Pourquoi a-t-il voulu nous rapporter cette histoire alors qu'il se concentre dans son évangile sur sept miracles avant la crucifixion et un après la résurrection? Il a concentré son évangile avec sept miracles et dans ces sept miracles, il trouve le moyen de nous rapporter celui-là qui est déjà rapporté par Matthieu, Marc et Luc. Il y a donc quelque chose que nous devons capter là. Jean a rédigé son livre. Il a trouvé nécessaire, en rédigeant ce livre, de faire à nouveau cette répétition. Alors, il y a des petites variantes quand on lit les quatre récits qui parlent de cet évangile, de cette histoire. C'est donc un miracle qui les a profondément marqués. Alors, si on regarde un petit peu le contexte qui nous est donné ici dans Jean, on ne sait pas grand-chose sur ce contexte. On ne sait pas ce qui précède vraiment ce miracle, mais justement, comme c'est rapporté par les quatre auteur de l'évangile, on peut apprendre un petit peu ce qui s'est passé avant. Et là, nous apprenons par les autres, par Matthieu, par Marc et Luc, que les disciples ont été envoyés par Jésus en mission ou en campagne d'évangélisation, comme vous voulez. Et les disciples sont de retour et on les imagine enthousiastes, on les imagine avec plein de choses à raconter à leur maître. Et ils aspirent à une chose, c'est être tranquilles pour parler avec Jésus et l'avoir pour eux tout seul. Et Jésus le comprend bien, parce que Jésus les prend et les amène à l'écart. Jusque-là, formidable. Jésus les prend loin des villes bruyantes pour les amener tranquillement à l'écart. Et trouver du repos et aussi de la tranquillité et aussi du temps avec le Maître. Ça, c'est le contexte. Moi, j'ai donné pour titre à ce message « Laissons-nous surprendre par Jésus ». Et j'aimerais explorer trois pistes avec vous. La première piste, Jésus connaît nos motivations. La deuxième piste, Jésus teste notre foi. Alors, si le mot « test » vous dérange, remplacez-le par « éprouve notre foi ». C'est la même chose. Et la troisième piste que j'aimerais voir avec vous, c'est « Jésus nous associe à son œuvre ». Alors la première piste, Jésus connaît nos motivations. Nous avons lu qu'une foule immense suivait Jésus. On nous parle de 5000 hommes et Matthieu, au chapitre 14, verset 1, précise « sans compter les femmes et les enfants ». Alors moi j'aime assez me représenter ce que ça veut dire, parce que les chiffres, vous savez, 5000 personnes, 10 000 personnes, qu'est-ce que ça représente? La population de Cavaillon, c'est
26 000.
Imaginez une foule de 10 000 personnes qui suit Jésus. À Cavaillon, ça marquerait les esprits et je suis sûr qu'au journal télévisé du soir, on titrerait « Les gens suivaient », on ne sait pas la suite. Mais si je compare avec l'île sur la Sorgue, c'est 20 000 habitants. C'est 50% de la population qui suivrait Jésus. Waouh! pense que Marc Etienne, comme moi, nous rêve aussi d'une population qui suit Jésus et qu'on devrait pouvoir entourer, aider, accompagner, etc. Ça serait magnifique. Cette foule présente suit Jésus. Et là encore, je l'ai dit, c'est formidable, une foule qui suit Jésus. Mais Marc précise que cette foule, elle attend Jésus. Et elle l'attend tellement que certains ont précédé Jésus dans l'endroit où il va se rendre. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir. Ils se sont peut-être téléphonés un coup. Il va certainement aller là, allons-y. En tout cas, il précède Jésus. Et l'endroit calme, tranquille, où il devait se rendre avec ses disciples, il y a beaucoup de monde. Il y a du monde qui est là. Alors, mettez-vous un petit peu à la place des disciples qui aspirent au calme, la tranquillité, parler avec leur maître. Ils arrivent à un endroit où plein de monde. Plein de monde. Et moi, je me suis demandé, en préparant ce message, pourquoi cette foule suit-elle Jésus? Pourquoi certains ont même précédé Jésus et attendent Jésus? Que voulait-elle? Qu'espérait-elle de lui? Qu'est-ce qui pouvait motiver un tel déplacement de la part d'une aussi grande foule? Alors, même si le texte ne le dit pas de manière explicite, on peut quand même avancer certaines pistes. Certains, peut-être, avaient le désir sincère de rencontrer Jésus. Je pense que dans cette grande foule, des gens avaient soif de connaître Jésus. Peut-être avait-il déjà entendu à un autre moment. Peut-être avait-il vu faire des miracles. Peut-être avait-il été interpellé par la façon dont Jésus répondait à ceux qui l'agressaient, souvent les autorités religieuses. Peut-être des gens désiraient ardemment écouter Jésus. Je pense que c'est une première catégorie de personnes. Mais une deuxième catégorie de personnes pouvaient être d'autres personnes motivées par la souffrance, la maladie. C'est Luc, l'auteur du troisième évangile, qui est médecin de profession, qui l'écrit. Il dit au chapitre 9, verset 11, « Jésus guérissait ceux qui en avaient besoin. » Donc il y avait des gens qui avaient besoin de guérison, qui attendaient Jésus pour être soulagés, délivrés, guéris. Peut-être étaient-ils aussi accompagnés de leur famille, de leurs amis. Peut-être que leur handicap nécessitait que d'autres les portent, les accompagnent, les encouragent. En tout cas, ces personnes avaient besoin d'une intervention de Jésus. Et c'est pour cela qu'elles étaient prêtes à entreprendre un déplacement qui pouvait leur coûter de grands efforts. Je pense qu'il y avait une troisième catégorie de personnes qui suivaient Jésus ou qui précédaient Jésus. Je pense qu'il y avait ceux qui sont curieux. Les curieux. Ah, les curieux. Les curieux. En voyant des gens avancer dans une même direction, on se dit, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Ça serait bête de rater ça. Allons voir. Et donc, des gens devaient suivre. Et si on leur avait posé la question, un micro-trottoir, pourquoi tu suis les autres? Je ne sais pas, mais en tout cas, il doit y avoir un truc intéressant. Les curieux. On suit sans trop savoir pourquoi. Mais on suit. On ne veut pas rater quelque chose, hein. Ce serait ballot de louper quelque chose. Alors on suit. Et puis, je pense qu'il y avait une quatrième catégorie de personnes. Et peut-être, les plus nombreux. Ceux qui attendaient quelque chose de Jésus, du spectaculaire. C'est Jean qui nous apprend cela au verset 2. Il dit qu'une foule suivait Jésus à cause des guérisons miraculeuses dont elles avaient été témoins. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus qui intéressait ces personnes, mais le sensationnel, le spectaculaire. Elle voulait voir du spectaculaire. Et si encore les miracles, les signes miraculeux avaient suscité la foi, on aurait pu s'en réjouir. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et Jésus le savait, figurez-vous. Parce que, au chapitre 2 de cet évangile de Jean, les versets 22 à 25, il nous est dit « Beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. » Et là, on a envie de dire « Gloire à Dieu, super, ils ont compris !» Mais Jean ajoute « Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. » Et dans ce même chapitre 6, au verset 26, Jésus leur dira le lendemain de ce miracle-là, le lendemain il leur dira « Si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » C'est donc l'intérêt. L'intérêt qui amène ces gens à se déplacer. Et lorsque Jésus, dans ce même chapitre 6, au verset 66, lorsqu'il sera plus direct dans son enseignement, eh bien là, il va y avoir des gens qui vont abandonner Jésus. Et beaucoup vont se retirer de lui en disant, « Oh là là, tes paroles, c'est trop dur là. » L'estomac parle, on est d'accord, on suit, mais après l'enseignement, on préfère s'en aller. Et quand j'ai analysé un petit peu ces quatre catégories, on aurait pu en trouver peut-être d'autres, mais ces quatre grands groupes qui pouvaient suivre Jésus, ces quatre catégories de personnes, je me suis demandé quelles étaient nos motivations à nous. Ce matin, par exemple. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Cette question, elle semble simple, mais elle mérite qu'on y passe du temps dans la réflexion. Qui est Jésus vraiment pour moi? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je le suis? Parce que de la réponse que nous allons donner à cette question dépendra la suite. La bonne motivation nous permet de voir au-delà des problèmes, au-delà des imperfections de l'Église. La bonne motivation nous accroche à Jésus et non à ses bénédictions. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez entendu des personnes dire « Moi, je suis fâché avec Dieu. » Et quand vous leur demandez pourquoi, ils vous disent « Parce que j'ai prié, Dieu n'a pas répondu à ma prière. » Et invariablement, je leur dis « Donc Dieu te devait quelque chose. » Ou « Tu méritais quelque chose. » »« Oui, je n'ai pas mérité ça. » Est-ce que nous méritons quelque chose? Est-ce que nous avons mérité? Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Peut-être que nous avons besoin de remettre les choses en ordre. Dans le même chapitre d'Ésaïe que tu as lu, c'est ce que je veux partager ce soir. On ne s'est pas mis d'accord, hein, mais ça m'interpelle. Dieu dit, l'argile a-t-il quelque chose à dire au potier? Nous devons nous rappeler que Dieu est Dieu. Et que nous sommes l'argile, c'est lui le potier, c'est lui l'artisan, c'est lui qui nous façonne. Nous avons vraiment besoin de nous interroger sur nos motivations. Parce que nous allons ou bien persévérer quand ça sera difficile, ou bien abandonner parce que ça sera trop dur. Si ma motivation n'est pas la bonne, je vais faire comme beaucoup de gens, abandonner et laisser tout tomber. Déçu de Dieu. Comment on peut être déçu de Dieu? Comment on peut être déçu de Dieu? Quand j'ai regardé ces textes, j'ai été interpellé par l'attitude de Jésus. Marc précise, au chapitre 6, verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus donc, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Vous ne croyez pas que Jésus savait les motivations de ces foules, de cette foule? Bien sûr que oui. Mais Jésus est rempli de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur renseigner beaucoup de choses. Jésus n'est pas dupe sur les vrais mobiles de cette foule. On l'a dit, il leur révélera leurs mobiles. Mais il sait parfaitement que si la plupart ne s'intéressent pas à lui, mais à ses miracles, eh bien lui s'intéresse à eux. Jésus s'intéresse à eux. Jésus les aime quand même. Ça, c'est formidable. Jésus nous aime quand même, malgré nos faillites, malgré nos manquements, malgré parfois nos motivations qui ne sont pas les bonnes. Cette foule, c'est des gens perdus, ils sont perdus, aveugles, mais Jésus les voit et leur fait du bien. Jésus est sensible aux besoins physiques et spirituels de ces milliers de gens. Et il soulage ceux qui en ont besoin et nourrit leur âme. Eh bien, Jésus connaît aussi nos cœurs ce matin. Jésus connaît chacune de nos attentes. Jésus connaît chacune de nos souffrances. Jésus connaît chacune de nos fatigues. Il connaît chacune de nos motivations. Il sait l'état de nos cœurs parce que rien ne lui échappe. Mais Jésus nous accueille. Jésus se réjouit de te voir ce matin. Bienvenue. Plus encore, Jésus veut nous faire du bien. Parce qu'il nous aime. N'est-ce pas formidable d'avoir un tel sauveur? Alors on peut se laisser surprendre par lui. Il a de quoi nous surprendre. Parce que si nous devions projeter sur Jésus ce que nous pensons souvent, eh bien, on n'irait pas très loin. Si on devait voir la foule avec nos propres yeux, on n'aurait pas fait ce que Jésus a fait. Et on ne serait pas là non plus. Ça m'amène à ma deuxième piste. Jésus teste notre foi ou Jésus éprouve notre foi. On l'a dit, les disciples sont boostés après une campagne d'évangélisation intense. Ils ont hâte de raconter à Jésus ce qu'ils ont vécu. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que les disciples devaient tressaillir de joie à l'idée d'être seuls, enfin, avec le maître. L'avoir pour eux. Et puis partager tout ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils ont vécu des choses formidables. Vous pouvez lire ça dans les autres textes parallèles. Mais en voyant cette foule, en voyant ces gens venir, parce que ça fait du monde, le texte ne le précise pas, mais je peux aisément imaginer la déception des disciples. Du travail. Encore du travail. Même si dans un premier temps, ce n'est pas eux qui vont travailler. Mais quelle déception! Quel programme chamboulé! Vous aimez les changements? Vous aimez les changements? Vous savez, quand on a tout préparé et que tout doit bien fonctionner, et puis il y a un grain de sable qui vient tout changer. Vous aimez? Vous êtes super! Ou bien vous êtes comme moi en train de bouillir? Et vous dire, mais c'est pas possible. Comment je vais récupérer la chose? Comment on va faire? J'aime pas les programmes de dernière minute. Et vous non plus, je pense. Avec Jésus, ça fait souvent partie du programme. L'imprévu fait souvent partie de la formation voulue par le maître. Alors, deux possibilités. Soit on fait avec, soit alors on commence à bouillir et on pète un câble. Et on envoie tout promener. Mais nous passons à côté de la formation. Et quand on n'a pas appris une leçon, Dieu nous ramène à cette leçon. Il faudra y comprendre, avancer un peu plus la prochaine fois et comprendre un peu mieux les choses que Dieu veut. Et si on n'accepte pas la situation, on est frustré. On est tendu. Et on est loin de aimer notre prochain comme nous-mêmes. Hein. Nous avons notre garçon qui est sur le Logos Hope avec le bateau d'OM. Et quand il est parti en janvier, je lui ai rappelé ceci. Quentin, rappelle-toi que la devise d'OM, c'est flexibilité. Et rappelle-toi qu'avec Jésus, les programmes changent souvent parce qu'il veut t'amener sur un terrain que toi, tu ne connais pas. Nous nous faisons des idées d'eux. Ça doit être comme ça. Reste souple. Apprends qu'avec le Seigneur, les programmes font partie, les changements de programme font partie de la formation. Ne lutte pas contre ça, mais adapte-toi à ce que le Seigneur veut pour toi. Et là, les disciples doivent tant bien que mal s'adapter à cette nouvelle situation. Et on a l'impression que Jésus, il va les tester encore un peu plus. Vous imaginez, ils sont déjà en train de se dire, tout ce monde là, quand même. Bon, Jésus va enseigner, hein, après, chacun rentre chez soi. Ok, on patiente. Mais voilà que Jésus leur pose une question. Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Alors là, c'est le bouquet. Question surprenante de la part de Jésus. Moi, j'imagine la réaction des disciples parce que je me mets à la place des disciples. J'aurais peut-être dit à Jésus, non mais enfin Jésus, t'es pas sérieux sur ce coup-là, c'est une blague. T'as vu combien ils sont? Tu sais combien d'argent on a en caisse? Il faudrait au moins 200 jours de travail, un denier égale un jour de travail, pour que chacun reçoive un petit croûton de pain et encore, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Voilà. Est-ce que vous auriez pensé la même chose? Peut-être. Je pense que c'est des réactions que nous avons, souvent, avec des changements de situation. Et là, la foi, elle est comme un élastique. Elle est mise en tension. Vous vous dites, ça va craquer. Mais Dieu permet cela. Humainement parlant, ils ne peuvent pas nourrir une telle foule. D'ailleurs, qui pourrait? Mais Jésus le sait. Jésus le sait parfaitement. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus pose-t-il une telle question? Puisqu'il sait que ses disciples ne peuvent pas. Ben, Jésus nous donne la réponse au verset 6. Ces gens, pardon, nous donnent la réponse. Ils voulaient voir ce qu'ils allaient faire. Jésus veut voir si ses disciples vont avoir le bon réflexe. Eux qui suivent leur maître depuis un certain temps, qui l'ont vu agir, devraient normalement placer immédiatement leur confiance en disant « Jésus, mais on ne peut pas, mais toi tu peux. Nous savons que tu peux. » C'est la logique auquel on aurait dû s'attendre. On aurait dû lire « Les disciples ont dit à Jésus, maître, nous ne pouvons pas, c'est impossible, mais toi tu peux. » Eh bien non. Nos disciples ne voient que les problèmes et pas Jésus. Les disciples ont besoin d'apprendre à compter sur le maître et pas sur les circonstances. Et pour cela, ils doivent d'abord prendre conscience qu'ils sont impuissants face à cette situation. Ils doivent réaliser que sans Jésus, ils ne peuvent strictement rien faire. Est-ce que nous avons fait le même constat? Est-ce que nous avons réalisé cela? Est-ce que nous avons compris cette leçon importante que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire? Combien de fois j'ai essayé de résoudre les problèmes par moi-même? Et vous savez le résultat? Un échec. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jusqu'à ce que je dise à Dieu, pardon, j'ai besoin de placer ma confiance en toi. Je veux voir ce que tu vas faire. On a des fameux dictons qu'on nous cite parfois et on nous dit, oui, mais un dicton dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ben ça, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Bibliquement parlant, ça ne se soutient pas. Dieu attend qu'on lui fasse confiance. Et j'aimerais rappeler ceci. Chaque fois que nous disons à Dieu, c'est impossible, Dieu répond, je le sais. Enfin, tu as compris. Parce que moi, je suis le Dieu de l'impossible. C'est comme ça qu'il se révèle, n'est-ce pas? Dieu ne serait pas le Dieu du possible, mais le Dieu de l'impossible. C'est ça qui est formidable avec notre Dieu. Jésus nous aime trop pour nous laisser tomber. Alors s'il permet que notre foi soit éprouvée, ce n'est pas pour se moquer de nous. Ce n'est pas pour nous tourner en dérision, bien au contraire. Lui, il connaît la solution à nos problèmes. Il veut intervenir en notre faveur. Ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. C'est pas compliqué. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a du mal avec ça? Laissons-le agir. Laissons-le nous surprendre. Si Jésus nous confie une tâche à accomplir, parfois nous renonçons facilement, sous prétexte que c'est impossible. Même parfois, nous, pasteurs, Seigneur, c'est impossible avec cette église. Seigneur, c'est impossible avec cette ville. Seigneur, c'est impossible ici parce que c'est trop dur. Parce que le Seigneur nous envoie dans des endroits où c'est pas dur. Vous avez lu ça où dans la Bible? Et c'est où que c'est facile? Ça n'existe pas. Le Seigneur nous dit, je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est même impossible pour toi. Mais moi, c'est possible. Et je vais te montrer ce que je vais faire. Dieu veut agir en notre faveur. Et puis j'aimerais quand même que nous prenions conscience, peut-être que nous notions cette phrase, quand nous disons c'est impossible Seigneur, alors que le Seigneur nous a demandé quelque chose. Peut-être nous devons nous demander qui sommes-nous pour décider de ce qui est possible et de ce qui n'est pas. Qui sommes-nous pour décider cela? Ça nous ramène à notre place. Le maître c'est Dieu, pas moi, pas nous. Encore une fois, Jésus n'a-t-il pas dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu » Luc 18, 27. C'est des textes que nous devons connaître parce que c'est là que nous en avons besoin. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais non plus sans solution, comme le montre la suite du récit. Et c'est ça qui est formidable. Nous n'aurons jamais un Dieu qui ne sait pas quoi faire et qui dira « Ah, je ne sais pas, je vais réfléchir. » Jamais. Faisons lui confiance. Ça m'amène à ma troisième piste. Jésus nous associe à son œuvre. Dans cette foule immense, il y a un jeune garçon. Remarquons que les paroles de Jésus l'ont intéressé parce qu'il est resté jusqu'au bout. Puis apparemment, il était prévoyant parce qu'il avait son pique-nique. Mais à la différence des disciples, ce jeune garçon ne se pose pas de questions. Il donne tout ce qu'il a, c'est-à-dire 5 pains d'orge et 2 poissons. Aliment des pauvres, probablement. Mais en tout cas, ce qu'il a, il le donne. On a envie de dire, non, garde-les, parce que maintenant, ça va pas. C'est pas la peine. 5 000 personnes, 10 000 personnes, non, c'est pas la peine. Garde, c'est bon. Et moi, personnellement, je pense que les disciples n'avaient pas absolument rien dans leur caisse. Et le trésorier, Judas, Jean nous dira au chapitre 12 qu'il était voleur, qu'il piquait dans la caisse, avait probablement de l'argent dans la caisse. Mais ils ont estimé que c'était insuffisant, donc ce n'est pas la peine. Le jeune garçon, lui, il ne calcule pas. Il offre le peu qu'il a. Et là, Jésus l'accepte. Ça, c'est incroyable. Jésus prend ce que ce jeune garçon va donner. Il choisit d'utiliser ce que ce garçon donne, alors qu'il aurait pu, en claquement de doigts, produire quelque chose à partir de rien. Parce que Dieu peut produire à partir de rien, pas nous. Et Dieu choisit, Jésus choisit d'utiliser le peu qui lui est offert et le multiplie. Le résultat, on l'a lu, c'est que tout le monde est nourri, rassasié. C'est pas juste un petit enka, un petit apéritif. Chacun est rassasié, nourri. Et il y a du reste. Évidemment que le chiffre 12 n'est pas anodin, parce que la leçon est pour les disciples ici. Mais notez que quand Dieu fait quelque chose, il le fait avec largesse. Et les 12 disciples qui n'avaient rien vont repartir avec un panier plein. La leçon est pour eux. Ils doivent comprendre un certain nombre de choses. On comprend mieux pourquoi les 4 auteurs de l'évangile ont rapporté ce texte 4 fois. Tellement ça produit un effet sur les disciples. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai parfois le sentiment de ressembler davantage aux disciples qu'à ce jeune garçon. La raison semble parfois l'emporter sur la foi, le raisonnement humain sur la puissance de Dieu. Et vous savez comment la Bible appelle ça? Un manque de foi. Un manque de foi. Nous sommes appelés à prendre conscience de nos faiblesses pour mieux compter sur la toute-puissance de Jésus. Vous le savez, notre petite église allée sur la Sorgue, elle est petite. Et nos locaux aussi. Nous sommes heureux de nos locaux, mais nous avons besoin de locaux plus grands et plus fonctionnels. Nous n'avons pas, comme vous, par exemple, des pièces à côté pour l'enseignement des enfants. Pour l'instant, on n'a pas encore d'enfants. Mais le jour où on en aura, on va faire comment? On ne sait pas exactement. Donc, il nous faut un local plus grand, plus adapté. Et c'est ce que j'essaye de partager, transmettre cette vision à l'église. Alors la question qu'on me pose, c'est de combien disposons-nous en caisse pour voir ce qu'on pourrait acheter. Et moi, je réponds invariablement, on a autant d'argent que quand on a acheté ce local. Ah, super. Et la question qui suit, c'est combien? Et moi, je réponds, zéro. Il me regarde un peu étonné. Ben, je dis, oui, quand on a acheté ce local, on avait zéro. En caisse, zéro. Et Dieu a pourvu. Donc, je sais que Dieu pourvoira. Comment, j'en sais rien. Mais je sais qu'il pourvoira. Alors, c'est sûr que notre jeune petite église, pour certains, c'est nouveau. Et la foi, elle est comme un élastique, très, très tendue. D'ailleurs, quand je m'adresse aux agences et je leur demande quelque chose, on me demande toujours quel est le budget. Et je réponds, bah, il est à peu près comme ça. Je n'ai pas de réponse parce que je n'en sais rien. Mais je dis, voilà ce qu'il nous faudrait, etc. Parce que j'apprends à ne pas limiter Jésus. J'apprends à lui faire confiance. J'apprends à marcher par la foi. Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Pour cela, il attend que nous puissions nous mettre en action, en route. Il attend aussi que nous lui offrons le peu que nous avons. Il désire que nous mettions à sa disposition ce que nous avons. Parce que Dieu veut aussi le multiplier selon sa volonté. Alors attention, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Hein, du tout. Et d'ailleurs, nous aurions tort de limiter ce texte à l'argent. Parce que ou bien matériel, ce que Dieu attend de nous, c'est beaucoup plus. C'est notre disponibilité. Sommes-nous prêts à dire « je suis disponible » Ce que Dieu attend, c'est notre pleine coopération. Est-ce que nous sommes prêts à coopérer, à œuvrer pour Dieu? Je pense que vous avez des défis ici. Et Dieu veut vous encourager à les relever, ces défis. Mais la question, c'est est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous engager? Ou bien est-ce que vous envoyez Marc-Étienne? Vas-y, on est avec toi, hein? Courage! Il faut s'y mettre. Ces pains et ces poissons peuvent représenter nos capacités, nos professions, nos dons, nos temps. Sommes-nous prêts à mettre tout cela à la disposition du Seigneur? Dieu veut nous utiliser. Et Dieu veut utiliser non pas ce qu'on retient, mais ce qu'on va lui donner. Ça, c'est une clé aussi. Il peut se servir de notre peu pour en faire quelque chose de grand. Jésus a pris ce qu'un garçon lui a offert. Et Jésus l'a utilisé pour accomplir l'un des miracles les plus spectaculaires des évangiles. L'âge non plus n'a pas d'importance. Ne dites pas « je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ceci, je suis trop cela ». Nous sommes tous utiles dans l'œuvre de Dieu. Remarquez bien que les disciples n'y sont pour rien dans la multiplication des pains et des poissons. C'est Jésus qui a opéré le miracle. Mais Jésus les associe à son œuvre en leur faisant distribuer ses pains et ses poissons. Jésus aurait pu prier et puis faire en sorte, avec un claquement de doigts, que chacun a son morceau de pain dans ses mains. Ça aurait été plus rapide. Et son poisson bien chaud, grillé. Non, il choisit d'envoyer les disciples. Ça a dû prendre du temps. Mais les disciples sont associés à son œuvre, l'œuvre de Jésus. Ils deviennent les mains, les pieds de Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus veut nous utiliser. Jésus veut nous associer à son œuvre. Vous ne croyez pas que Dieu pourrait, en un claquement de doigts, faire que Cavaillon se convertisse? Il pourrait. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il veut se servir de toi, de moi, de vous, pour que l'évangile progresse, pour que l'évangile soit annoncé. Alors nous pouvons être des canaux par lesquels Dieu veut bénir nos contemporains. Est-ce que notre vie va servir finalement à donner le pain de vie à des multitudes? Est-ce que nous voulons être c'est, à l'image de ce garçon, ces personnes qui disent « Moi, je veux être un canal que tu vas utiliser, Seigneur. Sers-toi de moi. Utilise-moi. Conduis-moi vers ceux et celles qui te cherchent pour que je puisse être ce porteur de bonnes nouvelles. C'est pas moi la bonne nouvelle. C'est Jésus. Mais je suis un canal que tu vas utiliser. » J'aimerais conclure. En ayant réfléchi à tout cela, je me suis posé la question. si 10 000 personnes ont été rassasiées par les pains d'orge et de poisson, combien ont vu en Jésus le pain de vie? Combien ont été rassasiés par ses paroles et par son enseignement? Nous savons que très peu. Ne nous décourageons pas. Nous avons besoin de nous laisser interpeller aussi par la parole de Dieu, si nous ne voulons pas être nous aussi de ce nombre de ceux qui, finalement, ne se laissent pas trop toucher. Dès que l'Évangile nous dérange un peu, on risque d'abandonner. Non. Nous devons nous attacher fermement à notre Seigneur. Nous devons le laisser nous surprendre. La vie avec Jésus est passionnante, je vous assure. Faites-lui confiance. Ne prenons pas le risque de passer à côté de ce que Dieu veut nous faire vivre, personnellement, mais aussi collectivement, en tant qu'Église. Dieu a des bons projets pour l'Église de Carillon. Je le crois, j'en suis certain. Dieu a des bons projets pour l'Église de l'île sur la Sorgue. Je le crois, j'en suis certain. Voulez-vous vous engager? Amen. Nous voulons prier. Seigneur, merci parce que ce texte nous interpelle encore aujourd'hui. Nous avons besoin de confesser que parfois nous te suivons pour des motivations qui ne sont pas les bonnes. Nous avons besoin de confesser que parfois nous regimbons devant les épreuves, devant les pas de foi que nous devons faire et nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Nous sommes toujours en train de discutailler, négocier, comme s'il y avait quelque chose à négocier avec toi. Nous prenons conscience que tu as tout donné pour nous, pour que nous puissions vivre pour toi. Je te remercie que ta compassion est là, ton amour aussi, et que malgré nos défaillances, tu nous aimes quand même. Tu continues de nous utiliser, tu continues de nous faire du bien, tu continues de manifester ta bienveillance sur chacun. Ma prière, c'est que nous puissions nous laisser mobilisés par toi, nous laisser engager pour toi et que nous ayons une joie à te servir. Je te prie pour l'église de Carillon, pour que tu développes ton église, pour que tu la fasses grandir, pour qu'elle devienne une église qui t'honore, te glorifie comme elle l'est déjà maintenant, mais qu'elle grandisse encore et qu'elle se développe encore et que des personnes qui ne te connaissent pas entrent dans ta famille. Seigneur, nous prions que tu interviennes. Fais grâce. Nos yeux sont sur toi. Notre attente est en toi. Sois béni, Dieu notre Père, en Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.